105 FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Ce soir, la ville est déserte, toute la terre est là, guichet fermé. Marmelade publique énerve, température élevée à minuit. Pour les applaudissements, même le jour se lève. Mondial est là, retransmission, radio, toutes les télévisions. Des invités aussi connus que Cousteau, plus de sponsors qu'un match de football. Des présidents à côté, des bandits au premier rang. Chaque musicien prend soin de ses parents. Tout le monde s'est déplacé pour elle. Hélas, quelqu'un manque à l'appel. Mais ouais, Billy, on ne sait pas, aucune hypothèse ne s'écarte. Mais ouais, Billy, on ne sait pas, l'hypopète sûrement pas. Mais ouais, Billy, on ne sait pas, aucune hypothèse ne s'écarte. Mais ouais, Billy, on ne sait pas, l'hypopète sûrement pas. On chuchote que la diva est malade. Caprice, kidnapping, tout s'y passe. Où est la beauté vocale pour l'appel au calme? Les premières bagarres éclatent au bar. Des fausses places circulent, c'est pas réjouissant. Devant, on se bouscule, y a des évanouissements. Le promoteur pleure, ça rendrait mignon si ses pertes n'atteignaient le million. Ça fait un long moment que la loge est vide. Le front du garde du corps devient humide. Son agent qui parlait partout devient timide. Le taulier descend des verres dans le living. 5000 personne se pose la même question. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas. Où est Billy? On ne sait pas. Aucune hypothèse ne s'écarte. Mais où est Billy? On ne sait pas. L'hypopète, sûrement pas. Cela n'arrive qu'une fois dans la décennie. Le public attend depuis minuit et demi. Mais où est Billy? On ne sait pas. Aucune hypothèse ne s'écarte. Mais où est Billy? On ne sait pas. L'hypopète, sûrement pas.
The end of this song. So what did you come
I
for?
I came to dance with you.
Obsédés par leurs petits ennuis, que s'interrogent comment se porte la lady. Mais où est Billy?
Hey, it's me.
Yeah.
Mais où est Billy?
Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
La radio qui fait le point. 101.5 FM. J'ai dit quoi? 101.5?
Salut à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler de trois séries télé, Derry Girls, Family Business et Ozark. Alors Derry Girls, ou les filles de Derry, c'est une série télévisée nord-irlandaise. Elle est créée par Lisa McGee et elle retrace les aventures de quatre adolescentes irlandaises et du cousin anglais de l'une d'elles au début des années 90 dans une des villes les plus touchées par le conflit nord-irlandais. Et la série a commencé en janvier 2018 sur Channel 4. Donc l'histoire se déroule à Derry, en Irlande du Nord, pendant le conflit nord-irlandais du début des années 90. Et c'est l'histoire de quatre jeunes filles, Erin, Claire, Michelle et Orla, qui se rendent tous les jours à l'école catholique pour filles de la ville. Et puis c'est aussi l'histoire du cousin anglais de Michelle, qui devient le premier garçon à intégrer l'établissement. En fait, dans cette série, Lisa McGee, la réalisatrice et scénariste, elle raconte sa propre adolescence. Et la série est vraiment très drôle et très grinçante. Donc pour l'instant, on a deux saisons de Derry Girls. Une troisième saison est prévue prochainement. Il faut quand même signaler que le premier épisode a battu un record d'audience pour le lancement d'une série avec 2,8 millions de téléspectateurs. Et la série reçoit un accueil enthousiaste des deux côtés de la frontière irlandaise. En décembre 2018, la première saison a reçu 100% de critiques positives sur le site Rotten Tomatoes, avec une note moyenne de 7 sur 10, ce qui lui vaut un statut vraiment de qualité. Et elle est listée parmi les 50 séries télévisées de l'année 2018 par The Guardian, à la 6ème place. Voilà, une série de qualité, drôle, très sympa, Derry Girls, n'hésitez pas. Deuxième série ce soir, Family Business. Alors là, tout part en fumée dans cette série française créée par Igor Gottesman et diffusée depuis juin 2019. Alors, c'est l'histoire de Gérard Hazan qui travaille dans le Marais et il tente tant bien que mal de maintenir sa boucherie cachère, sa boucherie familiale depuis le décès de sa femme Bénédicte. Mais c'est surtout l'histoire de son fils Joseph qui est un entrepreneur raté et qui pense cependant avoir la solution. En effet, il tient de sources sûres que le cannabis va être légalisé prochainement. Il tente alors de convaincre le reste de la famille de transformer la boucherie en coffee shop, en bûcherie, premier coffee shop de France. Et en attendant cette légalisation, les Hazan vont cependant devoir cacher leur business. Alors les acteurs principaux, c'est Gérard Darmon, c'est Jonathan Cohen qui est génial, Julia Piaton et Liliane Rovert que vous avez vu dans 10%. Et les acteurs qui ont des rôles secondaires sont aussi hyper drôles, par exemple Enrico Macias qui joue son propre rôle. Donc la saison 2 vient juste d'être diffusée et mise à disposition sur la plateforme Enix. On a annoncé en octobre 2020 que la série reviendra pour une saison 3 et qu'elle sortira prochainement sur la plateforme. Enfin, parce qu'effectivement à la fin de la saison 2, on a un teaser, on a un cliffhanger, hein, comme disent les Américains, et c'est sûr il y aura une saison 3. Alors dans l'Express, Valentin Pimard considère la série comme la création Netflix France la plus réjouissante à ce jour. Et dans Télérama, Pierre Langlais la qualifie de sympathique grâce à une excellente distribution, comme je vous le disais. Quelques critiques négatives dans le Figaro. On trouve que c'est trop sage au vu du sujet, que c'est faussement transgressif. Dans Première, que ça cherche son ton entre farce et satire sociale. Mais c'est pas un ratage, comme dit Le Monde. Voilà. Moi j'adore Jonathan Cohen, donc si vous aimez Jonathan Cohen, n'hésitez pas à regarder Family Business. Deux saisons pour l'instant, deux saisons de 6 épisodes, c'est facile, c'est parfait. Et enfin Ozark, c'est une série télévisée dramatique américaine créée par Bill Dubuc et diffusée depuis 2017. Alors c'est l'acteur Jason Bateman qui est l'interprète principal de la série, ainsi que le réalisateur de plusieurs épisodes. Et la première saison est composée de 10 épisodes, dont 9 épisodes d'une heure et un final de 80 minutes. Et les deuxième et troisième saisons comptent chacune aussi 10 épisodes. Alors, de quoi ça parle ? La série raconte la vie de Marty Bird, un conseiller en gestion financière, et de sa femme Wendy. Marty est en fait chargé de réaliser des blanchiments de capitaux pour le deuxième plus gros cartel du Mexique. Mais lorsque ce même cartel se rend compte que de l'argent a disparu, Marty fait déménager sa famille de la banlieue de Chicago au lac Ozark, une station balnéaire des monts Ozark, c'est-à-dire des grands lacs situés au cœur de l'Amérique, dans le Missouri. Il est confronté à un baron de la drogue mexicain qui compte obtenir le remboursement de sa dette. Alors, les acteurs principaux sont Jason Bateman et Laura Linney. Alors Jason Bateman, vous l'avez vu dans beaucoup de films. Et Laura Linney, je me souviens de l'avoir vu dans le Truman Show avec Jim Carrey. Donc c'est intéressant, l'histoire est intéressante et surtout on découvre un paysage, on découvre une région, une station balnéaire au bord de l'eau, au lac des Ozarks, où le créateur de la série d'ailleurs a travaillé comme docker alors qu'il fréquentait une université dans les années 80. Il y a aussi ce qui est intéressant souvent aussi dans les séries, c'est le générique. Et là le graphiste Fred Davis il a créé une lettre blanche, un O blanc, qui apparaît sur un fond noir au début de chaque épisode. Le cercle est divisé en 4 quartiers. Dans lesquels on retrouve 4 symboles qui préfigurent les principaux points de l'intrigue de cet épisode. En plus, chacune de ces images symboliques dessinées à la main est formée pour représenter les lettres restantes dans Ozark. Par exemple, pour l'épisode 1, un homme agenouillé représente un Z, un bâtiment représente un A, une arme à feu représente un R et un homme qui tombe représente un K. Alors comme souvent, la critique est mitigée face à une série. Dans Télérama, on juge qu'il y a quand même 2 excellents comédiens, une intrigue plutôt efficace, un récit rythmé, un décor séduisant, On peut pas dire qu'on s'ennuie devant Ozark. Après, il faut pouvoir se passionner pour ce drame qui est finalement classique, qui est pas mal fait, qui est bien joué. Voilà. Et puis, le magazine Première lui est plus élogieux. Ils disent pas que Ozark c'est le nouveau Breaking Bad, mais ou même qu'il arrivera un jour à la cheville du chef-d'œuvre de Vince Gilligan. Mais elle partage, et c'est vrai, avec sa glorieuse aïeule, un même esprit, une volonté persistante d'interroger intelligemment la psychologie humaine, autant que les obligations sociologiques de notre monde, et à la marge l'économie souterraine qui alimente le crime. Et puis quand même quelques distinctions pour cette série. Aux Emmy Awards 2019, un meilleure réalisation pour Jason Bateman pour l'épisode Réparation, et meilleure actrice dans un second rôle pour Julia Garner. Voilà, c'est tout pour moi ce soir. Je vous rappelle trois séries à découvrir ou à revoir en ce moment. Ozark, Family Business et Derry Girls. Salut et à bientôt.
Attends, tu vas voir, ça passe à la radio là.
Now you do what they told ya. 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 Don't do that. I'm justified. We're wearing the badge. Yeah, you're chosen right. Don't get died, but wearing the badge, yeah, you're chosen right. Don't you die, I'm justified, but wearing the badge, yeah, you're chosen right. You're justified, don't you die, but wearing the badge, yeah, you're chosen right. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. Now you do what they told ya. 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 Don't you die, I'm justified.
Et nous continuons notre voyage cérébral.
Yo les Banggeeks, ça fait plaisir de vous retrouver en direct d'Angers, en direct de Radio G 101.5. On va continuer notre voyage cérébral à travers la philo. Donc je vous propose soit un conte philosophique, soit une série philo, ou encore un petit ciné philo. Voilà, à vous de choisir, à vous de choisir, à vous de choisir.
Une de ces balles est comme nous et voyage à travers le temps, en marche avant. L'autre va en marche arrière. Vous pouvez les différencier? Et maintenant?
Pourquoi ça fait si bizarre?
Vous ne tirez pas à la balle. Vous la recevez.
Wow.
I done went back in myself, felt like hell. Work, I risked it, pace yourself. How you living? Know you thrilling off a sentence. How I got my stripes and pendants back and out in the street. Run is wild, let it be. Rage is out, gotta eat. Not a vibe, but a way with the sound. By the way, counting down by the days.
C'est qui cet Américain?
Il a l'air sympathique. Je l'ai invité au dîner.
Il a un bon coup de poing pour un diplomate.
Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous.
Tu penses à un moyen?
Tu vas tiquer.
Le problème, ce n'est pas la durée, c'est ressortir en vie.
Tenet, Christopher Nolan, 2020. Le temps est-il réversible? Depuis longtemps, nous nous interrogeons sur le temps, sa définition, ses caractéristiques et son essence. Une image connue de l'Antiquité est la flèche du temps. Une de ses caractéristiques essentielles, évidentes, est l'irréversibilité. Le temps avance dans une direction. Il peut être linéaire ou cyclique, mais ne revient pas en arrière. Et si cette évidence n'en était pas une? Si le temps pouvait s'inverser? Nous demande Christopher Nolan dans le film. L'inversion du temps est très difficile à rationaliser. Elle avait déjà été abordée dans le Marvel Doctor Strange. Nolan, dont l'obsession tourne autour du temps, qu'il explore et nous demande d'explorer avec lui à travers son cinéma. Que ce soit le temps de la mémoire dans Memento, le temps du rêve dans Inception, ou encore la relativité du temps alliée à la physique quantique dans Interstellar. Le titre du film, le nom de plusieurs personnages et le lieu où se déroule la première scène sont une référence directe au carré Sator, un carré magique apparu dans l'Antiquité romaine, présent sur une fresque de Pompéi. En résumé, un agent de la CIA est laissé pour mort lors d'une opération contre des mafieux russes à Kiev en Ukraine. En fait, il s'agissait d'une stratégie pour le faire disparaître et le recruter au sein d'une organisation transnationale pour sauver le monde. Muni d'un seul mot, Tenet, et décidé à se battre pour empêcher une troisième guerre mondiale, en effet, le futur a trouvé une technologie afin d'inverser le temps et cherche à nous détruire, car nous sommes trop nuisibles et irresponsables. notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel. C'est donc un film palindrome. Un palindrome est un mot qu'on peut lire dans les deux sens. Le film aussi est pensé ainsi. Une fois qu'on l'a vu, il faudrait le revoir en commençant par la fin pour bien le comprendre. Comme Dunkerque, le scénario a été écrit par Nolan lui-même, pas par son frère comme souvent. Du coup, il est très conceptuel, parfois froid, tant dans le jeu des acteurs que dans l'image. L'image, ou les images impressionnantes et magnifiques certes, mais froides dans leur couleur et leur tonalité. Le seul, qui a un jeu assez humain, plus fantaisiste que les autres, c'est Robert Pattinson. John David Washington, fils de Denzel Washington, et Kenneth Branagh jouent très bien malgré tout. Cependant, les personnages parlent comme au cinéma, comme dans un scénario ou comme dans un animé, c'est-à-dire de façon très stéréotypée et grandiloquente. Il y a un petit côté « je me la pète quand je parle », si vous voyez ce que je veux dire. Dans ce film, certains diront que le film se noie dans son propre concept, qu'il est confus et exagérément compliqué. Et il est vrai qu'on est assez perdu. On se pose plein de questions tout au long du film. Les informations fusent, on a peur d'en perdre. Elles fusent très vite par rapport à notre réflexion plus lente. D'autres diront que Nolan continue d'explorer le temps et d'interroger le cinéma, qu'il nous invite à penser que l'image et notre intuition, qui sont très rapides et reconstituent sans cesse la réalité, ne vont pas aussi vite que notre réflexion plus lente. Il n'empêche que nous nous posons toutes et tous la question au cours du film. Comment ça marche, l'inversion du temps ?
à tous, c'est Héloïse et aujourd'hui c'est l'occasion pour moi de vous faire une chronique spéciale jeux vidéo. Le 24 septembre, Nintendo a fêté ses 131 ans. Mais c'est pas tout, on a aussi fêté les 35 ans de Mario. Et à cette occasion, Nintendo avec son Nintendo Direct, elle a prévu quelques surprises pour cette fin d'année pour les adorateurs du plombier moustachu. La première surprise, c'est la sortie de Super Mario 3D All-Stars. Donc c'est la bonne nouvelle pour tous les rétro gamers qui nous écoutent. Les jeux Super Mario 64 sortis sur Nintendo 64, Super Mario Sunshine sorti sur GameCube et Super Mario Galaxy sorti sur Wii sont sortis ce 18 septembre dernier. Comme vous pouvez l'imaginer, je l'ai acheté, j'y joue actuellement et je suis en adoration. Non seulement parce que les jeux Super Mario, c'est vraiment les jeux de mon enfance, mais les jeux ils ont été remasterisés pour une expérience améliorée par rapport aux jeux de l'époque sans avoir à brancher sa vieille console pour y jouer. Je note pourtant deux bémols. C'est qu'à l'époque où le rétro gaming et les remasters ils sont à la mode, donc FF qui a été remasterisé, Crysis en partie, etc., ça aurait été vraiment appréciable d'améliorer les graphismes de Super Mario 64 et surtout la caméra de l'enfer dans ce jeu. C'est vraiment difficile d'y jouer en ayant une caméra qui répond pas du tout. Voilà, c'est le seul petit bémol que pour l'instant je peux relever sur le jeu in-game. Et le deuxième bémol, et c'est à noter pour tout le monde, c'est que le jeu, c'est une édition limitée, disponible jusqu'en mars prochain. Donc à vos porte-monnaie pour l'acheter. Deuxième annonce de Nintendo, le jeu Super Mario 35. Donc c'est un jeu en mode Battle Royale, où 35 joueurs s'affrontent pour savoir lequel pourra franchir les niveaux du jeu en premier, et seul le dernier survivant sortira vainqueur. Ça sortira le 1er octobre pour les joueurs ayant le Nintendo Switch Online et c'est jouable jusqu'au 31 mars 2021. Ça fait penser à un jeu un peu comme Tetris 99 ou plus récemment Fall Guys dont je vous parlerai dans une prochaine chronique parce que je suis en amour de ce jeu. Troisième annonce, le jeu Super Mario 3D World Plus. Donc c'est un jeu qui était sorti à l'origine sur la Wii U dont peu de personnes ont pu jouer parce qu'en fait... la console Wii U s'est très mal vendue, mais vous allez désormais pouvoir y jouer avec une nouvelle version qui sera disponible le 12 février 2021. Quatrième et dernière annonce, le jeu Mario Kart Live Home Circuit. Donc l'idée elle est simple, c'est avec des voitures téléguidées, on peut recréer des circuits du jeu Mario Kart, mais dans la vraie vie. Donc on allume son jeu, on joue, et les voitures disposées dans notre salon, elles suivent le mouvement de son kart in-game. Ce sera dispo le 16 octobre prochain, et j'avoue que ça pique un petit peu ma curiosité. Voilà, pour résumer, Nintendo il nous a régalé pour les 35 ans de Mario. J'espère que ça va annoncer aussi d'autres sorties avec d'autres jeux. En tout cas, pour l'instant, je suis super contente de ce qu'ils nous ont annoncé, même si je comprends pas trop l'idée d'avoir des jeux qui sont limités dans le temps quand on les achète. Mais voilà, Nintendo doit avoir son idée derrière la tête sur pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Enfin voilà, ça fait toujours plaisir et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à y jouer. Je vous retrouve pour une prochaine chronique. Salut !
Outside. suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
Pardon ?
Quoi, nous avons affaire à un serial killer.
Un quoi ?
Un serial killer.
Hein ?
Un serial killer, tueur en série.
Ah, serial killer.
Bonjour à toute l'équipe de Bande Geek Mafia et à tous les auditeurs. Je vous propose ce soir cette petite chronique enregistrée car je suis actuellement en voyage sur une petite île de Vendée, l'île Dieu. C'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter un auteur de polar très célèbre, non pas sur une petite île, mais sur une bien plus grande, l'Islande. Cet auteur fait depuis quelques années partie de mes écrivains fétiches, en particulier quand vient l'été, qui rime souvent pour moi avec polar. La période estivale et ses longues heures passées au soleil sur un transat ou sur le sable fin face à la mer m'apparaissent toujours idéales pour se plonger dans ce type de lecture. Entre parenthèses, on aimerait tous de nouveau y être. J'ai donc dévoré cet été trois romans de l'auteur islandais Arnaldur Indridason. Avant de vous en parler, et pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène, je vous propose une rapide présentation de l'écrivain à succès. Diplômé d'histoire, Indridason a commencé sa carrière en tant que journaliste. Également scénariste indépendant, il travaille comme critique de films dans les années 80-90. Il publie son premier livre en 1997, Fils de poussière. Je vous épargnerai ce soir tout au long de cette chronique les titres originaux en islandais, même si j'imagine que cela aurait bien amusé mes camarades. Donc cette publication marque pour certains, comme Arlan Coben, le départ d'une nouvelle vague islandaise de fiction criminelle. Aux côtés d'Ami Purhadrinsson, également auteur islandais de polar, Arnaldur déclare qu'il n'existe pas de tradition de polar en Islande. À cet état de fait, il y a deux raisons. L'une tient en ce que les gens, y compris les écrivains, considéraient les histoires policières comme de mauvais romans. La deuxième raison, c'est que beaucoup d'Islandais ont longtemps cru en une sorte d'innocence de leur société. Très peu de choses répréhensibles se produisaient et le peu de faits divers ne pouvait pas donner lieu à des histoires policières. Ce qui explique qu'à leur début, Thorarinsson ou Indridason ont du mal à s'imposer dans les milieux littéraires islandais. Aujourd'hui, Indridason est l'auteur d'une vingtaine de romans policiers, quasiment tous traduits en français. Bon nombre d'entre eux sont devenus des best-sellers. Par ailleurs, les livres d'Arnaldur ont été publiés dans 26 pays et traduits en allemand, danois, en anglais, en français, en italien et j'en passe. Arnaldur a reçu le prix Clé de Verre, un prix de littérature policière scandinave en 2002, mais aussi en 2003. Il a également gagné le Gold Dagger Award, prix littéraire britannique en 2005 pour La Femme en Vert, qui est l'un de mes romans préférés d'ailleurs. Les principaux romans d'Arnaldur Indridason mettent en scène la même équipe d'enquêteurs dont la brute Erlendur torturée par la disparition de son frère alors qu'il n'était qu'un enfant et tourmenté par sa fille toxicomane. Ce sont ses souffrances et les conditions qui les ont engendrées qui intéressent particulièrement Arnaldur. Ses romans sont régulièrement des prétextes à un voyage dans le passé, tel l'homme du lac, où l'enquêteur Erlendur trouve un squelette vieux de 40 ans faisant appel au passé communiste d'une partie des Islandais durant la guerre froide. Arnaldur déclare à ce propos « Je m'intéresse aussi aux squelettes qui collent au basque des vivants. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les squelettes vivants, pourrait-on dire. Mes romans traitent de disparition, mais ils ne traitent pas principalement de la personne qui a disparu, plus de ceux qui restent après la disparition, dans un état d'abandon. Je m'intéresse à ceux qui sont confrontés à la perte. » Ce sont ces gens-là que j'appelle les squelettes vivants. Ils sont figés dans le temps. J'aime beaucoup remonter le temps et envoyer mes personnages sur les traces du passé. J'aime exhumer des événements oubliés. Le temps, en tant que concept, est quelque chose qui m'intéresse énormément. La manière dont le temps passe, mais aussi son influence, les conséquences de son passage sur nos vies. J'aime déceler les liens entre une époque ou une autre. Évidemment, la thématique du temps est une partie très importante des histoires que je raconte, que ce soit son pouvoir destructeur ou son pouvoir de guérison qu'il peut avoir. Même si, dans La Femme en Vert, Erlendur déclare que le temps ne guérit aucune blessure. La trilogie des ombres nous fait justement remonter le temps, puisqu'elle nous plonge dans l'Islande de la Seconde Guerre mondiale. C'est cette trilogie que j'ai pu lire cet été, en tout cas les deux premiers volets. Elle s'ouvre avec le tome 1 qui s'intitule « Dans l'ombre ». On y suit au départ un représentant de commerce qui est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, tué d'une balle de Colt et le front marqué d'un SS en lettres de sang.
Rapidement, les soupçons portent sur les soldats étrangers qui grouillent dans la ville cet été 1941. Deux jeunes gens sont chargés des investigations. Flovan, le seul enquêteur de la police criminelle d'Islande, ex-stagiaire à Scotland Yard, et Thorson, l'Islandais né au Canada, désigné comme enquêteur par les militaires puisqu'il est bilingue. L'afflux des soldats britanniques et américains bouleverse cette île de pêcheurs et d'agriculteurs qui évolue rapidement vers la modernité. Les femmes s'émancipent, les nazis, malgré la dissolution de leur parti, n'ont pas renoncé à trouver des traces de leur mythe et de la pureté aryenne dans l'île. Par ailleurs, on attend en secret la visite d'un grand homme. Donc les multiples rebondissements de l'enquête dressent un tableau passionnant de l'Islande de la situation. Cette occupation de jeunes soldats qui sème le trouble parmi la population féminine. Il révèle aussi des enquêteurs tenaces, méprisés par les autorités militaires, mais déterminés à ne pas se laisser imposer des coupables attendus. J'ai aimé le sujet, mais peut-être un peu moins le manque de dynamisme de l'écriture présente dans ce tome. La lenteur de l'action et les nombreuses fausses pistes sur lesquelles nous amène Ingrid Asson ne m'ont pas permis d'être captivée, comme je le suis d'ordinaire à la lecture de ces romans. J'ai tout de même enchaîné sur le deuxième volet, intitulé « La femme de l'ombre », dans lequel on retrouve les deux complices Flovan et Thorson. J'ai davantage accroché cette fois-ci à l'intrigue, toujours aussi complexe, dans laquelle plusieurs affaires scabreuses et difficiles nous seront révélées et peu à peu les liens qui les unissent. Au départ, un jeune homme est victime d'une attaque bestiale, impitoyable, près d'un bar fréquenté par les militaires américains. Puis, des pêcheurs se heurtent au corps d'un homme noyé, ramené sur le rivage par les vagues. Mais avant, une jeune Islandaise, ayant travaillé en Norvège et en Suède, profite de l'autorisation des Allemands de rentrer au pays et pleure son fiancé, justement arrêté par la Gestapo au Danemark. La guerre, l'occupation, la collaboration, la résistance, toujours en trame de fond de cette histoire, nos deux policiers qui ont développé une solide collaboration et aussi une belle amitié ne sont pas au bout de leur peine et devront affronter le mutisme des certains témoins, mais surtout cette grande et immensément organisée institution qu'est l'armée. Il ne me reste de mon côté plus qu'à lire le dernier volet de la trilogie qui est intitulé « Le passage des ombres ». Bien évidemment, je vous ferai un petit retour de ma lecture dans l'émission. Je vous propose pour finir un dernier roman d'Ingrid Asson, La muraille de lave, qui traite de toute autre chose et que j'ai aussi donc eu l'occasion de lire cet été. Le déroulement de La muraille de lave aurait pu se situer en 2007, alors que la crise des subprimes se propage à l'échelle mondiale. Les dérives du système financier ont probablement interpellé Ingrid Asson, qui est aussi journaliste, comme je vous l'avais précisé en introduction, lui donnant matière à la construction de ce roman policier dans lequel les nouveaux vikings de la finance se croient tout permis. Paradis fiscaux, sociétés écrans, blanchiment de capitaux, spéculation à outrance, etc. C'est dans un contexte donc économique et financier où les limites du raisonnable sont depuis longtemps dépassées que l'inspecteur en second Sigurdur Holly mène de front plusieurs enquêtes criminelles qui a priori n'ont pas de lien entre elles. On retrouve de la pédophilie, un meurtre et une disparition suspecte. L'empathie n'est pas du tout le fort de Sigurdur Holly. Il serait plutôt condescendant, voire manichéen. Il faut néanmoins lui reconnaître une témérité dans l'action et une efficacité à conduire des investigations, malgré une façon de procéder en solitaire pas toujours académique. Les fervents lecteurs d'Ingrid Asson regrettent sûrement l'absence du commissaire Erlend Dur, qui est ici injoignable, puisque en vacances. La personnalité de ce dernier est sans doute plus consensuelle que celle de son subalterne. Ingrid Asson dépeint ici une société islandaise complètement désabusée et nous dresse un tableau très sombre avec des protagonistes ne dégageant pas vraiment la joie de vivre et où les comportements déviants parsèment constamment l'intrigue. Le rythme du polar est par contre assez haletant, les rebondissements incessants et l'épilogue dans le milieu opaque de la haute finance ne déçoit pas. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Pour rester dans le thème et pour votre plus grand plaisir, j'imagine, je vais vous laisser, chers camarades chroniqueurs et bien sûr chers auditeurs, avec un groupe. Le groupe qui représentait l'Islande à l'Eurovision 2020 et son titre « Think About Things ». Là encore, je suis désolée, je ne tente pas du tout la prononciation du groupe et je vous laisserai chasamer si cela vous intéresse. Je vous retrouve pour une nouvelle chronique dans 15 jours sur les ondes de Bande Geek Mafia 101.5, la radio qui fait le point. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there.
I know I love you. I find it hard to see how you feel about me. Cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak. When we first met, I will never forget. Cause even though I didn't know you yet, we were bound together then and forever, and I could never let you go. To know, what do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen.
C'est Héloïse en direct de Nantes, et aujourd'hui pour ma chronique jeux vidéo, je vais vous parler du jeu star de cette fin d'année, il s'agit bien sûr de Fall Guys. Fall Guys Ultimate Knockout est un jeu vidéo multijoueur de type Battle Royale sorti le 4 août 2020, développé par Mediatonic et publié par Devolver Digital. Il est disponible sur PS4 et sur PC. Mais Fall Guys, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu fortement inspiré des jeux télévisés de courses d'obstacles comme Takashi's Castle, Total Wipeout ou Ninja Warrior. Dans le jeu, c'est 60 joueurs qui doivent surmonter des défis, le but étant d'être le dernier survivant pour décrocher la couronne de la victoire. Le joueur, il a le contrôle d'un espèce de haricot qui est muni de très longs bras et de petites jambes, sans aucune bouche mais avec des yeux. Et en fait, on peut le personnaliser de l'apparence comme on veut, les couleurs, les motifs de peau, les accessoires, les réactions. Et ces petits haricots, en fait, ils peuvent réaliser 4 actions de base, donc courir, sauter, plonger vers l'avant et attraper. Le principe de jeu repose sur la course d'obstacles, donc le joueur doit parvenir à son objectif en étant ralenti le moins possible par les obstacles sur le terrain ou par les autres joueurs. Dit comme ça, ça a l'air super simple, mais détrompez-vous, ça ne l'est pas du tout. Pour y avoir joué plusieurs heures, dont la plupart du temps à rager contre les autres joueurs, on se rend vite compte de la difficulté du jeu. Ce jeu, il a rapidement créé le buzz sur Twitch, la plateforme utilisée par beaucoup de streamers. Et ça a rassemblé des grands noms du jeu vidéo qui ont performé avec des lives de plusieurs heures pour réussir à faire top 1. En termes de chiffres, dès le premier jour, le jeu se révèle être un succès commercial avec 1,5 million de joueurs en moins de 24 heures, occasionnant des problèmes de charge des serveurs. Au 26 août 2020, 3 semaines après la sortie du jeu, le studio annonce que le jeu s'est vendu à 7 millions d'exemplaires sur Steam et qu'il est le jeu le plus téléchargé sur PS Plus, le store de PlayStation, où le jeu était gratuit pour le premier mois.
L'univers hyper coloré, personnalisable à souhait et fun du jeu donne réellement envie d'y jouer et j'ai fini par succomber à l'appel de la manette. Même si, je vous l'avoue, j'ai pas encore réussi à faire top 1 et c'est pas faute d'essayer. J'en parle également aujourd'hui car la saison 2 de Fall Guys, elle sort demain le 8 octobre. Cette nouvelle saison, elle s'appelle Night Fever et sans surprise, elle se fera autour de différents obstacles connectés au monde médiéval, le tout avec des nouveaux skins de mages, de sorcières et de chevaliers. J'ai hâte. Voilà pour les infos, le jeu est dispo sur PC, PS4 et bientôt sur d'autres consoles, dont la Switch. C'était Héloïse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
De sauvetage tout seul avec un tigre. S'il vous plaît, envoyez des secours. L'Odyssée de Pi, Life of Pi, de Ang Lee, 2012. Georges Bataille écrit, de point ouvrez les guillemets, « L'animal ouvre devant moi une profondeur qui m'attire et qui m'est familière. Cette profondeur, en un sens, je la connais, c'est la mienne. Elle est aussi ce qui m'est le plus lointainement dérobé, ce qui mérite ce nom de profondeur, ce qui veut dire avec précision ce qui m'échappe. » Fermez les guillemets. L'Odyssée de Pi, Life of Pi de Ang Lee, raconte l'histoire incroyable et fascinante d'un jeune indien passionné de religion et de spiritualité qui va errer sur l'océan Pacifique avec pour seule compagnie un redoutable tigre du Bengale. En effet, le cargo, qui devait amener sa famille et leurs eaux d'Inde au Canada, coule lors d'une tempête. Pi se retrouve alors sur un canot de sauvetage perdu au milieu de l'océan. Tout l'enjeu sera de survivre et d'établir un lien de communication avec le tigre avec qui il partage le canot. Ces animaux sont montrés sur le plan esthétique, dans leur diversité de formes et de couleurs, le chatoiement de leur pelage et plumage. Ils renvoient notre émerveillement face à la beauté énigmatique du vivant. Sur le plan métaphysique, y a-t-il une différence fondamentale entre l'homme et l'animal ? Cette distinction métaphysique entre l'homme et l'animal n'est-elle pas une fiction ? Peut-il exister un lien empathique, une communication, voire un échange entre homme et animal sauvage ? Le film nous montre-t-il que nous sommes dans une altérité radicale avec l'animal, voués les uns comme les autres à une extériorité, à une frontière infranchissable de l'un à l'autre ? Et alors le film n'est-il pas le récit d'une fiction ? Une fable moderne et malicieuse proposée par Ang Lee dans la pure tradition des fabulistes, Ésope, La Fontaine, ou des romanciers comme Rudyard Kipling dans Le Livre de la Jungle, ou Tarzan l'homme singe, La Ferme des animaux de George Orwell, Les animaux dénaturés de Vercors. Sur le plan éthique, quelle relation avons-nous aux animaux ? Ces relations semblent osciller entre crainte et respect, attachement et fascination, et nous lier ensemble par empathie. Ne pouvons-nous que dresser ou dompter un animal sauvage ? Ou au contraire, est-il possible de l'apprivoiser, d'en faire un ami, comme le propose Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, lors de sa rencontre avec le renard ? Mais nous avons aussi une relation très utilitaire et pragmatique aux animaux. Ils nous rendent service, nous les utilisons, parfois même de façon la plus inhumaine qu'ils soient, comme dans l'élevage et l'abattage industriel, ou encore l'expérimentation scientifique, pharmaceutique ou cosmétique. Il semble qu'une triple relation à l'animalité se dégage et est manifestée dans le film, esthétique, éthique et métaphysique.
Remember, Sally, when I promised to kill you last?
That's what made you... You did!
Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
Radio G, 101.5 FM.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.